Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Paris, mon moineau, tu joues les starlets. Pourtant tu prends de l'âge, tu rends la monnaie, tu n'as plus de siècle. Vrai ce que t'es ridé, vrai ce que t'as changé. T'as vieilli, c'est fou, t'en as pris un coup, j'ose plus te regarder. T'es toute maquillée, et les agences Cook te vendent à l'étale, telle une carte postale. Tu vaux plus une messe, t'as beau jouer de la fesse. Et pour les fripons, vendre tes jupons comme du saucisson. Paris, ma divine, joue pas ta Greta. Mets pas tes lunettes pour qu'on n'oublie pas de te reconnaître. À peine l'été venu, te voilà toute nue. Tu fais du striptease comme une vieille rentière, tu montres tes revenus. Et du Louvre à Pigalle, c'est du rentapin pour Américain à vous soulever l'âme. Mon Paris canard, on te met en chanson. Et à la SACEM, les poètes maudits viennent compter les jetons. Paris, ma chérie, mes amours sont morts. Je frappe à ta porte et comme un frimant, je promène mes ossements. Paris, mon amour, tu me prends à la gorge. Ça n'est plus de l'amour, c'est de l'habitude, mais vrai, ça m'égorge. Et je vais me balader dans tes rues, ma vieille. Je fais du sentiment, mon cœur bat de l'air. Oh, pardonne-moi, reviens dans mes bras, danser de musette au bal de mon cœur, tout comme autrefois. Paris, mon moineau.
C'était Mouloudji, Paris, mon moineau. J'ai pris quelques vacances et je me promenais dans mon cher Paris. Et comme toujours, la nostalgie m'envahit en voyant ma ville ridiculement boboïsée, indécemment bourgeoisée, ignoblement enrichie. Pour oublier le saccage de cette ville d'une si grande mixité sociale dans ma jeunesse, je me balade dans ma tête sur les boulevards tels qu'ils étaient au XIXe siècle. Le boulevard est né avec Louis-Philippe dans les années 1830, lorsqu'il a voulu aseptiser le Palais Royal, quartier de tous les vices selon lui. Il faut dire que maisons closes, courtisanes et prostituées, cafés, restaurants et maisons de jeux plus ou moins malfamées faisaient les beaux jours et les belles nuits de ce quartier construit par Philippe Égalité. Lorsqu'en 1837, Louis-Philippe fit fermer définitivement toutes les maisons de jeux, le Palais Royal émigra alors sur le boulevard. Un petit intermède avec Mouloudji chantant le mal de Paris.
J'ai le mal de Paris, de ses rues, de ses boulevards, de son air triste et gris, de ses jours et de ses soirs. Et l'odeur du métro me revient aussitôt que je quitte mon Paris pour des pays moins gris. J'ai le mal de la Seine qui écoute mes peines
et je regrette tant les quais doux aux amants. J'aime me promener dans tous les beaux quartiers, voir au palais royal les filles à marier, traîner à Montparnasse de café en café, et monter à Belleville tout en haut de la ville pour la voir en entier. J'ai le mal du pays quand je suis loin de Paris. Me prend le vague à l'âme, j'ai le cœur qui s'ennuie. Je rêve à cette dame dont les toits épanouis autour de Notre-Dame font des vagues infinies. J'ai le mal de la nuit, de la nuit de Paris, quand les filles vont et viennent à l'heure où moi je traîne. J'ai le mal des saisons qui poussent leurs voitures dans les rues de Paris et changent sa parure. Le printemps va gaiement, les arbres sont contents, puis l'été se promène, c'est dimanche toute la semaine. Les feuilles tombent blêmes. J'ai le mal de Paris durant les jours d'hiver, ses gris et ses déserts pleins de mélancolie. Oui, j'ai le mal d'amour et je l'aurai toujours. C'est drôle, mais c'est ainsi. J'ai le mal de Paris.
Le boulevard, dans l'imaginaire collectif, débute au théâtre du Gymnase, boulevard Bonne Nouvelle, et finit à la Madeleine. Mais l'on oublie trop souvent que dès le XVIIIe siècle existait le boulevard, qui commençait alors à la Bastille, au boulevard Beaumarchais, et s'étendait jusqu'au boulevard du Temple. Sur ce boulevard se trouvaient des maisons historiques, comme l'hôtel particulier de Beaumarchais, détruite en 1809, soit 10 ans après la mort de l'auteur, l'hôtel particulier de Cagliostro, mais aussi on y trouvait des restaurants réputés pour leur cuisine ou pour leur lien avec la Révolution française. Et voici un extrait du premier opéra rock français joué pour la première fois en 1973, La Révolution française.
Lève-toi, citoyen Capet, au nom du peuple français, la Convention. Désormais ne peut l'arrêter.
parmi vous. Je cherche en vain des juges et je ne vois que des accusateurs. Et cependant, pour aucun d'entre vous, il n'y a d'amertume dans mon cœur. Je n'ai pas fait cette ignominie. Je n'ai jamais trahi mon pays. Mon seul crime a été de l'aimer. La vie m'a réservé bien des infortunes et la mort ne me fait pas peur. Je forme des vœux pour que vous conduisiez la France hors des voies du malheur. Gardez-la mieux que je l'ai gardée, à l'abri de ses propres excès. S'il se peut, aimez-la mieux que moi. Qu'on prenne soin de ma famille, qu'on prenne soin de mes enfants, sont les seules faveurs que j'attends de votre bonté. Maintenant, au nom de la France, jugez en votre âme et conscience. Faites selon votre bon plaisir. Moi, je n'ai plus rien à vous dire.
Citoyens, colons d'Herbois.
À mort.
Citoyens Saint-Just.
Mort.
Citoyens Marat.
La mort.
Citoyens Robespierre.
La mort.
Citoyens Gautier.
La mort.
Citoyens Danton.
La mort.
Mais c'est surtout le boulevard du Temple qui fit fureur au début du XIXe siècle. Le boulevard du crime, celui que l'on voit dans Les Enfants du Paradis, le film de Carné. C'était une foule du matin au soir, une foule qui venait rire, s'esclaffer, s'amuser devant les tréteaux qui présentaient leur spectacle. C'était des paillasses, c'est-à-dire des plaisantins à moitié chansonniers que la police surveillait pour empêcher la plaisanterie de devenir satire politique. C'était Odino, le marionnettiste. C'était Nicolet, ses arlequins, ses marionnettes et ses animaux savants. Les grands danseurs du roi et leurs énormes farces. C'était évidemment tous les phénomènes de foire. C'était Bobèche, Gallimafré, qui jouait les niais et qui régulièrement se faisait rappeler à l'ordre par la police. Et puis on pouvait passer par le théâtre des Pygmées, qui s'était ouvert en 1676, et dont les acteurs étaient des marionnettes de 4 pieds de haut, soit 1,22 m. Et c'était Madame Sacchi, première danseuse à cordes de France, qui à 83 ans exécuta un pas de 3 sur une corde raide. On pouvait se détendre jour et nuit au café du Jardin Turc en écoutant un concert. Et l'on trouvait au 36 du boulevard du Temple, si vous passez par là, vous y penserez, l'ancêtre du musée Grévin, le salon des figures de Curtius. À ce propos, Nicolas Brasier, dans Chronique des petits théâtres parisiens, écrivait en 1837. Depuis 60 ans, il est toujours le même. Il n'a ni gagné ni perdu. Il est humble et modeste avec sa petite entrée, son aboyeur à la porte et ses deux lampions. Quant à son factionnaire en cire, c'est un farceur. Voilà pour ma part 36 ans que je le connais. Je l'ai vu soldat aux gardes françaises, hussard Chamboran, grenadier de la Convention, trompette du directoire, lancier polonais, tambour de la garde royale, sergent de la garde nationale, suivant les époques et les régimes. Quand vous entrez dans le salon, vous le trouvez tel qu'il était dès l'origine, noir et enfumé. Les figures nouvelles relèguent par derrière les figures anciennes, comme le roi qui arrive à Saint-Denis fait descendre son prédécesseur dans la tombe. Je crois qu'on a plus changé les habits que les visages. Je ne serais pas surpris que Charlotte Corday eût prêté son bonnet à la belle écaillère, que Barnave représenta aujourd'hui le général Foy et que la moustache de Jean Bart eût servi à faire celle du maréchal Lannes. Ce qui surtout n'a pas bougé de place, c'est le grand couvert autour duquel sont réunis tous les rois. On y a vu Louis XV et son auguste famille, Louis XVI et son auguste famille, le comité de salut public et son auguste famille, le directoire et son auguste famille, Napoléon et son auguste famille, Louis XVIII et son auguste famille, Charles X et son auguste famille, et nous y voyons aujourd'hui Louis-Philippe et son auguste famille. Je ne parle pas des fruits qui composent le dessert, je puis affirmer que les pommes, les poires, les pêches, les raisins étalés sur cette auguste table sont les mêmes que j'y ai vus il y a 30 ans. Je ne crois même pas qu'ils aient été époussetés. C'est aussi sur ce boulevard que les Franconi, une famille d'écuyers, ouvrit le premier cirque olympique pour les spectacles équestres, l'ancêtre de Bartabas en quelque sorte. Je pourrais continuer longtemps et avec force détail, mais il suffit de fermer les yeux et d'imaginer cette ambiance bon enfant où tous les milieux sociaux se côtoyaient, où l'on pouvait rire, échanger, s'amuser, tout ce qui nous est interdit aujourd'hui par une soi-disant démocratie. L'on a presque envie de crier « Vive le roi !» C'est sur ce boulevard du Temple que se trouvait le théâtre des Funambules et son créateur, Debureau, le célèbre Pierrot que Banville surnommait le Napoléon de la pantomime et dont Jules Janin disait qu'il avait renouvelé entièrement la comédie. Et tout autour, une dizaine de cafés s'étaient ouverts pour le plus grand plaisir de tous. Enfin, au numéro 44, célèbre depuis le 28 juillet 1830, puisque c'est de cette maison que Fieschi commit son attentat contre Louis-Philippe, tuant 19 personnes et en blessant une quarantaine d'autres, donc du 44 jusqu'à ce qui deviendra la place de la République en 1879, se côtoyaient les théâtres du drame, d'où le surnom donné à cette partie du boulevard du Temple, boulevard du crime. Pour chanter le boulevard du crime, qui de mieux qu'Édith Piaf ?
Sur le boulevard du crime, pour voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des Funambules. Les amours de Pierrot, ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830. Masque sans bergamasque pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais dans la foule qui rit de Pierrot, il y a toujours un arlequin. Dans la vie, faut des arlequins, sans quoi l'amour, ça ne serait que des mots. Au silence que Pierrot sourit, c'est là-haut vers les amants du du crime pour voir la pantomime. Ce soir on se bouscule au théâtre des Funambules. Les amours de Pierrot, ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830. Masque sans bergamasque pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais tous ces gens qui rient de Pierrot ignorent que lui pleure pour de vrai, puisque la femme qu'il aimait est partie ce soir sans un mot, au silence que Pierrot sourit. Tout là-haut pleurent les amants du paradis. Sur le boulevard du crime, pour voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des funambules, les malheurs de Pierrot. Sous les cris, les bravos font rire dans la tourmente le Paris de 1830. Quel talent fantastique, qu'il est drôle et comique. Ça, c'est un vrai Pierrot. Allez, vas-y, refais ton numéro.
On pourrait faire toute une émission sur ces théâtres du drame, mais c'est le boulevard dont nous voyons plus aujourd'hui que les ruines qui nous intéressent. De la place de la République jusqu'à l'Opéra Garnier, inauguré en 1875 après 14 ans de travaux par le président MacMahon, le boulevard fut pendant plus d'un siècle le centre d'attraction de Paris. Mais attention, il y eut le boulevard du 19e siècle qui drainait tout ce que Paris comptait de journalistes, de comédiens, d'hommes du monde, d'écrivains, d'artistes, de dandys, de directeurs de salles, de comédiennes et de courtisanes. Mais je laisse la parole au journaliste Simon Arbello qui, en 1964, écrivait ses derniers souvenirs, lui qui avait connu dans sa jeunesse les derniers témoins du boulevard. Bavards intarissables, grands buveurs d'apéritifs, il parlait volontiers pour la galerie et se laissait avec bonne grâce arracher les anecdotes sur la fin de Tortoni, les fastes de la Maison Dorée, les tournées des Grands-Ducs et leur bonne fortune. Et c'est le boulevard, toujours le boulevard de la Madeleine à l'Opéra jusqu'à la rue Montmartre, qu'ils s'ingéniaient à prolonger dans leurs attitudes, leurs tenues, leurs propos. Il semble qu'il n'y ait pas un café, une boutique, un kiosque, une colonne Maurice qui n'ait son histoire et ses histoires. C'est là qu'on voit et qu'on ait vu. C'est là que courent les potins, naissent les légendes, se font et se défont les réputations. Un petit monde agité y fait la loi qui régit les théâtres, les restaurants, les cafés, les cercles et la presse, consacrant un succès, achevant une défaite. Les boulevardiers, flâneurs et mondains, bohèmes et artistes, snobs de toute obédience, y font des mots que les écotiers rapportent déformés, amplifiés, améliorés, comme on dit en cuisine. Tout ce que M. Aurélien Scholl aura écrit le matin, tout ce que M. Catulle Mendès aura dit à l'heure de l'apéritif, sera toujours drôle et fera le tour de Paris. Petit monde à la vérité, mais qui nous paraît sous le regard de la publicité assez bien organisé, et dont le royaume s'étend autour de la Madeleine et de l'Opéra. Gustave Claudin, le journaliste et boulevardier que j'ai déjà évoqué dans de précédentes émissions, a laissé lui aussi ses souvenirs sur le boulevard. Paris était peuplé de Parisiens et c'était l'élite de ces Parisiens qui occupait le boulevard et le considérait comme son fief. En vertu d'une sélection qui n'était contestée par personne, on n'y était admis qu'autant qu'on apportait une supériorité ou une originalité quelconque. Il semblait qu'il existât une sorte de barrière invisible et morale qui interdit l'accès de cette enceinte aux médiocres, aux incolores et aux insignifiants qui pouvaient passer, mais qui ne s'y arrêtaient pas, ayant tous conscience que leur place n'était point là. C'était, je le répète, des Parisiens endurcis qui occupaient le boulevard et lui donnaient tout son prestige. Edmond Texier, dans son tableau de Paris en 1852, écrivait « Les boulevards ont hérité de tant de splendeur et de gloire. Ils sont devenus à leur tour le rendez-vous de l'univers, le point de ralliement de tous les peuples. Forum cosmopolite, ouvert à toutes les langues, centre merveilleux où aboutissent les chemins des cinq parties du monde. Edmond Texier appréciait ce cosmopolitisme, mais beaucoup de boulevardiers estimaient que ce fut la mort de leur boulevard. En effet, il faut bien distinguer le boulevard sous Louis-Philippe et le boulevard sous Napoléon III, où, selon le baron Paul d'Ariste, député sous la Troisième République, l'encanaillement commença avec les expositions universelles et la diffusion des moyens de transport. Voici d'ailleurs ce qu'en pensait Gustave Claudin. Par malheur, l'année 1848 et les années suivantes amenèrent ce que je demande la permission d'appeler l'invasion des barbares. Ils vinrent non conduits par Attila, mais amenés par des chemins de fer qui, au fur et à mesure qu'ils furent construits, mirent Paris à 4, 6 ou 10 heures des grandes villes, qui, sous le régime des diligences et des chaises de poste, en étaient séparées par de longues journées de marche. Le vapeur, appliqué non seulement sur terre mais sur mer, mit Paris à 10 jours de l'Amérique et de l'Orient. Alors les Bourguignons, les Provençaux, les Gascons, les Bretons, les Basques, les Flamands, puis les Américains du Nord et du Sud, les Russes, les Turcs, les Égyptiens, les Chinois, qui ne connaissaient Paris que par les descriptions superbes qu'ils avaient lues, conçurent le dessein de le visiter. Ils se mirent en marche et un beau jour débarquèrent par toutes les gares. Comme ces visiteurs avaient des bourses bien garnies, ils se dirigèrent tout droit vers les quartiers les plus à la mode. Les vrais Parisiens disparurent dans la foule et ne purent se retrouver. La preuve en chanson avec Boulevard de la Madeleine des Maudits Blues. Gustave Claudin. Si aujourd'hui il revenait, il mourrait d'une crise d'apoplexie en voyant son boulevard sale, inélégant et envahi par plus de banques, lui qui en 1884 en déplorait déjà la construction. Il y avait dans ce temps-là beaucoup moins de crédits lyonnais et beaucoup plus de bains chinois, écrivait-il. Ces bains chinois étaient un établissement de bains publics construit en 1787 et situé peu avant le Crédit lyonnais. Ils connurent un vrai succès jusqu'au Second Empire. En 1831, des boutiques remplacèrent le soubassement en forme de grotte. Et en 1852, ils sont vendus à Sir Richard Wallace, connu pour ses fontaines parisiennes, et à son père, qui les firent détruire en 1853 pour les remplacer par des immeubles de rapport. Et oui, le capitalisme ne fait ni dans l'esthétique, ni dans les sentiments. Madame de Girardin, Delphine de Girardin, l'épouse d'Émile de Girardin, le journaliste et directeur de journaux, écrira de 1836 à 1848, dans la presse, quotidien dirigé par son mari, un feuilleton hebdomadaire, Le Courrier de Paris, sous le pseudonyme du vicomte de Launay. En 1837, elle décrit le boulevard qui vient d'être doté d'un nouvel éclairage au gaz. Après le chemin de fer, ce qui enchante le plus les Parisiens, c'est le nouvel éclairage des boulevards. Le soir, cette promenade est admirable. Depuis l'église de la Madeleine jusqu'à la rue Montmartre, ces deux allées de candélabres d'où jaillit une clarté blanche et pure font un effet merveilleux. Et que de monde, que de monde! En vérité, on ne devinerait jamais qu'il n'y a plus personne à Paris. Des femmes élégantes sont assises sur des chaises, et auprès d'elles sont de beaux jeunes gens qui fument, c'est charmant. Des marchandes de fleurs vous poursuivent avec des bouquets et ne vous laissent pas un moment de repos. Des vieilles femmes vous offrent des paquets d'aiguilles, des enfants vous proposent des petits lacets ou des boutons de nacre. C'est assez champêtre, mais il nous semble que l'heure est mal choisie. Qui est-ce qui pense à acheter des petits lacets et des boutons de nacre à 10h du soir ? Vous remarquerez au passage que des chaises étaient mises à disposition des promeneurs sur les boulevards parisiens. Cette même année 1837, d'autres travaux devaient embellir les boulevards. La pose du bitume. Je laisse une nouvelle fois la parole à Madame de Girardin qui nous plonge dans les boulevards en travaux. Quelle activité sur les boulevards et dans les rues ! Il y a plusieurs années, alors que la manie des constructions dominait tous les esprits, on disait que Paris ressemblait à une ville prise d'assaut par les maçons. Aujourd'hui, l'on pourrait dire que c'est une ville fantastique, envahie par les sorciers. À tout moment, vous êtes étouffé par une odeur infecte, par une épaisse et noire fumée. À tous les coins des boulevards, vous voyez d'énormes chaudières sur de grands feux qu'attisent de petits hommes à figures étranges. Nous avons compté jusqu'à 12 chaudières sur le boulevard. Aussi, il fallait entendre tousser les passants suffoqués par la fumée. C'était un rhume universel. Toutes les voix s'unissaient dans une seule et même quinte qui commençait rue de Grammont et qui finissait rue Royale. Et maintenant, un petit intermède avec Sidney Bechet, Blues in Paris. Thank you. Depardieu ne pouvait pas concevoir vivre loin des boulevards. Il considérait une promenade au bois de Boulogne comme une extravagance. Le quartier de l'école militaire était une sorte de Sahara. Bref, ils vivaient enfermés sur leurs boulevards. Les boulevards, c'étaient les cafés, bien sûr, mais aussi les passages, avec leurs pâtissiers, leurs chocolatiers, leurs marchands de bonbons, de jouets, les fleuristes, la salle d'armes de Gâtechère, le bottier Goudal, la papeterie de Madame Buneau, le coiffeur Fichot, la parfumerie de l'Opéra, les éditions de musique Marguerite, l'armurier Caron, l'artiste en cheveux Le Monnier, qui fabriquait des coins de mouchoirs, des reliquaires ou des articles funéraires en cheveux. Et sur le boulevard lui-même, on trouvait la librairie Nouvelle, ouverte jusqu'à 22h, et dans laquelle, de 17 à 19h, on rencontrait les écrivains, mais aussi les courtisanes qui voulaient se cultiver. On trouvait aussi sur ce boulevard la marchande de cigares dont le plus fidèle client était Alfred de Musset. Mais l'émission se termine et je vous laisse avec Mouloudji qui chante à Chaussée d'Antin, cette rue attenante au boulevard, réputée à une époque pour ses prostituées. Je reviendrai sur les boulevards lors d'une prochaine émission. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
Je l'ai rencontré à Chaussée d'Antin, dans une ruelle avoisinante. Et elle m'a piégé, tout comme du gibier, et m'a donné son cœur à prendre. Je ne l'ai pas aimé, ne l'ai pas méprisé, je l'avais pris pour une fille tendre. Elle était putain à Chaussée d'Antin, où les faux amours sont à vendre. Et sur le pavé sexuel parisien, elle fauchait son blé comme une grande. Moi sentimental, ma vendeuse d'amour, autour d'elle je faisais de la romance. Avec un ami, je me promenais et puis j'ai vu ma putain en attente. Croco à la main, qui chaussait d'Antin, du gibier attendait la semence. Eh bien c'est ainsi que j'ai compris la vie, mes illusions étaient à vendre. À cause d'une putain de la Chaussée d'Antin et des ruelles avoisinantes. Ainsi va la vie, ainsi on la vit, quand on est naïf et trop tendre. On croit que l'amour est toujours propre et gai, et c'est ainsi que l'on se fait prendre. Par une putain ou une dame très bien, en amour y a pas de différence.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier.
Sur Radio Boomerang 89.7 FM.